Décryptage. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. Le Parlement, en partie saccagé, des mines d'or et de charbon occupées, et à peine croyable, un Premier ministre nommé quelques heures après avoir été libéré de prison par les protestataires. Toutes ces scènes-là se sont déroulées cette semaine au Kyrgyzstan. Le Kyrgyzstan, petit pays d'Asie centrale, ancienne République soviétique, et un pays qui est confronté depuis le début de la semaine donc à une grave crise politique, comme cela a déjà été le cas à deux reprises depuis le début des années 2000. Comment expliquer ces flambées de violence? Quelle est la position des deux géants de la région, la Russie et la Chine? On va s'intéresser au Kyrgyzstan dans Décryptage. Vous allez le voir, c'est un pays qui est considéré comme une bulle démocratique dans la région. Soyez donc les bienvenus. Nous sommes ensemble pendant 20 minutes. Et pour répondre à nos questions, notre invité en studio, David Gahuser, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur associé de l'Institut de Recherche Montesquieu, rattaché à l'Université Bordeaux 4 et spécialiste du Kyrgyzstan. Alors d'abord, on va essayer de contextualiser. Pourquoi cette crise politique a-t-elle éclaté au Kyrgyzstan? C'était donc lundi, c'était quelques heures après les élections législatives.
Oui, tout à fait. Cette crise est venue en écho pour contester, désapprouver le résultat qui était faussé des dernières élections législatives.
Alors, faussé pour quelle raison? Il y a eu des fraudes massives qui ont été avérées?
Oui, il y a eu des fraudes massives. Il y a eu des achats de voix, particulièrement au nord, où le président actuel est peu populaire. Donc, des urnes ont été remplies. On a même fait voter les morts dans certains endroits. Tout cela a réveillé le sentiment de révolte des Kirghizes, qui n'en sont pas leur premier essai.
Alors, je voudrais vous rapprocher un tout petit peu du micro, parce que ça crée quelques interférences. Les Kirghizes n'en sont pas à leur premier essai, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Ils ont déjà expérimenté deux révolutions, mais qui survenaient à l'issue d'élections présidentielles, cette fois-ci, qui avaient été faussées. En fait, pour résumer, les Kirghizes, que ce soit en 2005 ou en 2010, ont toujours obtenu par la rue ce qui leur avait été confisqué par les urnes.
Alors, c'est-à-dire à chaque fois un changement de régime, c'est ce vers quoi on se tourne actuellement?
Alors actuellement, la situation est un peu plus compliquée et délicate parce que elle survient à l'issue d'élections législatives et non pas présidentielles. Donc c'est quelque chose d'inédit. Le président actuel n'a pas terminé son premier mandat qu'il a entamé en 2017. Il n'en est qu'à la moitié. Et voilà qu'une partie importante, peut-être majoritaire, de la population veut déjà son départ alors qu'il n'a pas terminé son premier mandat.
Alors pourquoi il veut son départ? Clairement, ce sont des accusations de corruption?
Il y a essentiellement des accusations de corruption, de lien avec la criminalité organisée, avec le trafic d'héroïne. N'oublions pas que l'ancien directeur des douanes kirghize, Rahimbek Matraimov, a financé la campagne pour les législatives du parti présidentiel, donc du président Jeenbekov. Cette personne-là avait détourné 700 millions de dollars et trempe dans les trafics d'héroïne en provenance d'Afghanistan.
Alors, on a l'impression, selon ce que vous nous dites, que finalement, c'est la rue qui gouverne au Kyrgyzstan, puisqu'il y a eu 2005, 2010, à chaque fois des révoltes populaires qui ont chassé du pouvoir les dirigeants. C'est un petit peu ça?
Pour être assez synthétique, c'est quelque chose bien sûr de complexe, mais pour être synthétique, le Kyrgyzstan est un pays montagneux, grand à peine comme deux fois le Portugal, et c'est un état qui est surtout qui a deux vallées excentrées, le nord et le sud, et on a une opposition de rôle, une opposition de personnes aussi, une opposition qui est bien plus profonde que simplement politique, qui est culturelle, voire aussi religieuse, entre ces deux parties extrêmes du pays et excentrées du pays. Donc on a un jeu de balancier à tour de rôle, sud-nord, nord-sud, etc.
Alors on va évoquer dans la deuxième partie de l'émission ces points-là parce qu'ils sont effectivement intéressants et très spécifiques au Kyrgyzstan. Mais sur ce qui se passe actuellement depuis le début de la semaine, un mort, plusieurs centaines de blessés, des affrontements importants dans la capitale. Est-ce que justement face au président, l'opposition du Kyrgyzstan est unie aujourd'hui?
L'opposition peut toujours s'unir pour de manière circonstanciée. Je m'explique, c'est-à-dire pour faire front face à un pouvoir à un moment donné. Donc là, le président actuel est très impopulaire au nord du pays. Il est impopulaire aussi dans la minorité ouzbek du sud. Donc les partis vont s'unir pour demander soit d'être mieux représentés, soit carrément ce qu'ils appellent en russe de démarrer la procédure d'impeachment, donc la procédure d'empêchement, c'est-à-dire la révocation de la présidence. Donc l'opposition s'unit dans des moments comme ça, mais après se désunit pour la gouvernance. Nous avons une alliance de partis très hétéroclite, avec au nord, pour faire bref, des partis qui sont assez proches des partis politiques de ceux qu'on peut retrouver en France, donc avec des appareils, des membres, etc. Mais et au sud, plutôt des mouvements regroupés autour d'une personnalité.
Donc, mais clairement là, ce sont les autorités de l'État qui sont visées par le mouvement de contestation.
Oui, effectivement, mais...
C'est le président, clairement. L'opposition, elle est unie derrière cette volonté de voir le président quitter le pouvoir.
Une partie de l'opposition souhaite son départ, une partie, je pense, majoritaire, mais une autre partie, non négligeable, se range derrière le nouveau Premier ministre.
Alors, c'est un nouveau Premier ministre, il faut le dire, qui a été nommé il y a quelques jours, depuis le début de la semaine, et qui a été, je le disais en préambule de cette émission, libéré de prison quelques heures avant sa nomination par les manifestants. Ça, c'est une scène complètement irréelle, non ?
Au Kyrgyzstan, beaucoup de choses qui nous semblent irréelles sont possibles. L'ancien président qui avait été emprisonné donc l'an dernier, en 2019, après déjà un coup de force, a été également libéré par la foule. Un des dirigeants prometteurs qui pourrait prendre plus tard la présidence du pays, Monsieur Sapar Isakov, un jeune, a également été libéré, et donc le Premier ministre Sadir Japarov. Et le président, voyant que son pouvoir filait, a demandé un processus consensuel qui rassemblerait donc lui et ses partisans du sud, donc à la tête du pays, à la présidence, et laissant des gages à l'opposition issue du nord, donc de Sadir Japarov, afin d'essayer coûte que coûte de maintenir l'unité du pays.
Japarov, justement, c'est lui qui a été libéré de prison quelques heures avant sa nomination. Il est reconnu, il est soutenu par à la fois l'opposition et puis la rue, parce que la rue joue un rôle important, on l'a dit.
C'est mitigé. Une partie de la rue le soutient, une autre lui reproche justement de faire œuvre de conciliation avec le président. Il y a toujours des ultras partout. Des ultras, il y en a dans les deux camps. Dans le camp du Nord, ils veulent clairement arriver jusqu'à la destitution du président, qui est prévu dans la Constitution. C'est ce qu'on appelle la procédure, donc en russe, d'impeachment. Et au sud, au contraire, les gens, les plus fervents soutiens extrémistes de Djembekov, le président kirghize, voudraient qu'il établisse un pouvoir autoritaire pour se passer de ceux qui le contestent.
Alors aujourd'hui, en tout cas, le président s'est exprimé. Il n'était plus apparu en public depuis lundi. Il a dit qu'il était prêt au dialogue. À vous écouter, David Gahuzer, on a l'impression qu'il y a deux pays finalement au Kyrgyzstan, le nord et le sud.
C'est aujourd'hui malheureusement un fait présent. Tout semble se dédoubler puisqu'on a on a les autorités qui sont encore légitimes, le président, l'ancien parlement, dominés largement par le Sud, qui sont toujours en place. Et nous avons en face des leaders montants, avec un premier ministre, un nouveau premier ministre donc reconnu, d'autres leaders qui ne le sont pas, mais qui pourraient avoir un rôle à jouer, je pense à Sapa Lysakov, avec également un conseil de coordination qui s'est monté hier soir et qui réunit les forces d'opposition essentiellement issues du Nord, mais qui ne sont pas représentées au Parlement depuis les nouvelles, depuis les dernières élections législatives.
Parce qu'elles n'ont pas obtenu assez de suffrages, mais évidemment en raison des urnes qui ont été bourrées, finalement, en raison de la fraude massive.
Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc là, pour l'instant, nous avons un pays qui s'est dualisé, mais j'espère, et beaucoup de Kirghizes, notamment parmi les jeunes, les femmes aussi, mais je dirais les jeunes, essentiellement, veulent sauver coûte que coûte l'unité, parce que l'unité c'est la paix, parce que l'unité c'est l'essor économique, et que la division, surtout avec cette barrière montagneuse naturelle au milieu, pourrait balkaniser le pays en deux, voire susciter de forts risques d'une guerre civile entre les deux parties.
Oui, parce que c'est un pays extrêmement montagnant, on l'a pas dit encore, le Kyrgyzstan, hein, quasiment 3000 mètres d'altitude, chaque ville de ce petit pays de 6 millions d'habitants. Vous disiez une dualité importante entre le nord et le sud. Sociologiquement, finalement, c'est quoi les spécificités qui expliquent cette dualité?
Alors, nous avons, depuis le départ, déjà, un nord qui a été davantage russifié, qui est plus européanisé, où le russe, qui est la deuxième langue officielle du pays, est parlé dans le nord à égalité avec le kirghiz, essentiellement dans la sphère professionnelle, où l'islam est teinté de chamanisme, voire où on assiste à l'essor de mouvements chrétiens protestants. À l'opposé de cela, on a un sud plus rural, conservateur, musulman traditionnel, plus tourné vers l'Ouzbékistan, et qui a la différence culturelle est que l'islamisation dans le sud date du 8e siècle, alors qu'elle ne date que du début du 20e dans le nord.
Notre décryptage ce soir sur RFI, consacré à la crise au Kyrgyzstan depuis le début de la semaine, dans ce petit pays d'Asie centrale, la communauté internationale s'inquiète d'une flambée de violence. Notre invité, David Gahuser, chercheur associé de l'Institut de recherche Montesquieu, rattaché à Bordeaux 4, l'université française, spécialiste du Kyrgyzstan. C'est intéressant d'évoquer les puissances voisines, parce que finalement le Kyrgyzstan se trouve à un endroit stratégique, voisin de la Chine, et puis il y a la Russie qui est pas très loin. Finalement, quelle est l'influence de ces deux grands géants autour de ce petit pays ex-république soviétique, il faut le rappeler?
L'influence est importante, chacun ayant sa spécificité. Il y a aussi des puissances secondaires, peut-être aurais-je l'occasion d'y revenir. Au niveau des deux premiers protagonistes, à savoir la Russie et la Chine. La Russie, la puissance traditionnelle tutélaire du Kyrgyzstan. D'ailleurs, même si depuis cet après-midi, par peur d'une révolte de rue, Moscou soutient la légitimité de Djembekov, la Russie restera frileuse. Elle refusera de s'engager plus en avant, je dirais, entre les différentes parties en conflit, puisque chaque partie revendique ou cherche le soutien de la Russie.
Mais la Russie qui soutient le président, ça veut dire quelque chose d'important, parce que la rue demande le départ du président. Là, il risque d'y avoir à nouveau une crise politique qui continue, et donc à nouveau des manifestations, des bains de violence.
Non, parce que le soutien russe, c'est juste un soutien de mots, frileux, ça n'ira pas au-delà.
Pas d'intervention prévue?
Non.
Pourquoi la Russie s'intéresse pas plus à cette ex-république, finalement, qu'à d'autres? Pourquoi on n'a pas un scénario à la Biélorusse, par exemple?
La Russie sait très bien qu'il y a un jeu de tribus, un jeu d'opposition régionale, et donc ne veut pas interférer dans ce qu'elle appelle les affaires internes. Elle dispose d'une base militaire à Kant, à 15 km de Bishkek. Il y a eu récemment, pendant 15 ans, une base américaine à Manas, où la France avait mis un régiment d'aviateurs également. Et puis la Russie a encore une forte influence culturelle.
Et économique également. L'union économique eurasiatique est menée par la Russie, le Kyrgyzstan y adhère.
Tout à fait. Depuis 2016. Et nous avons donc une forte minorité russe, très, très nombreuse dans le nord, encore 10% de population, une université slave, et puis ce statut de bilinguisme avec la possibilité, qu'on a vu plusieurs fois dans l'histoire, de participation de membres de cette minorité au gouvernement. On a même eu des premiers ministres issus de la minorité russe.
Mais pourquoi il n'y a pas plus de partenariat entre la Russie et le Kyrgyzstan aujourd'hui? C'est parce que finalement, le Kyrgyzstan intéresse beaucoup moins que les voisins kazakhs ou ouzbeks qui ont évidemment des ressources énergétiques plus importantes que le Kyrgyzstan. Il n'y a pas cet attrait économique au Kyrgyzstan?
Non, le Kyrgyzstan a juste de l'or et de l'énergie hydroélectrique à revendre.
C'est déjà pas mal.
Et l'or est de plus en plus convoité par la Chine, ce qui fera la transition par rapport aux voisins chinois, qui lui a pour le moment un rôle surtout économique. C'est ce pays qui répare les routes, qui refait et qui rénove toutes les infrastructures ex-soviétiques vieillissantes. Et qui développe donc tous les corridors dans le cadre de la nouvelle route de la soie entre Chine et Occident, donc avec réfection des voies ferrées, des routes, des oléoducs, gazoducs et de tout ce qui est moyen de transport ou de fret.
Alors le Kyrgyzstan, donc évidemment moins attirant que ses voisins, on l'a dit, pour des raisons économiques. Le Kyrgyzstan, qui est aussi une autre spécificité, c'est qu'il est considéré finalement comme une bulle démocratique, dit-on, par rapport à ses voisins, parce qu'il y a une relative liberté d'expression au Kyrgyzstan.
Oui, cette liberté est historique, puisque les Kyrgyz, déjà à l'époque médiévale, sur le modèle, pour vraiment schématiser à l'extrême, des conseils de villages suisses à l'époque de Guillaume Tell, il y avait ce qu'on appelait les Kurultai, qui étaient des conseils de tribus qui élisaient déjà les émirs. C'est comme ça qu'on avait des dynasties d'émirs femmes. Et qui ensuite, dès l'indépendance, à 1991, n'a pas reconduit les anciennes autorités soviétiques. Il y a très tôt, les nouvelles élections dès 90 ont amené du personnel nouveau au pouvoir. Et comme je le rappelais tout à l'heure, dès que certains dirigeants ont essayé de rendre leur régime plus autoritaire, ils ont à chaque fois échoué, puisque le peuple est descendu systématiquement dans la rue réclamer ce qu'il n'avait pas obtenu par les urnes.
Alors il n'y a peut-être pas des présidents à vie, peut-être contrairement aux pays voisins, mais cependant, il y a une corruption qui est importante. C'est pas non plus un pays démocratique modèle, puisqu'on a évoqué une corruption massive lors des dernières législatives au Kyrgyzstan.
Tout à fait. Et cette corruption est difficile à combattre parce qu'elle elle rentre dans les lignages, dans les tribus. Il y a aujourd'hui 21 tribus qui se partagent le pays, 3 confédérations tribales qui s'opposent avec donc la Solkhanate, c'est la partie ouest de Talas, mais qui est plutôt proche du nord. Le nord en Khanat et le sud en Khanat Ichkilik. Et donc il y a des rivalités, de maîtrise du pouvoir. Et c'est vrai que la tradition, malheureusement, en Asie centrale, et là le Kyrgyzstan n'y échappe pas, la tradition du cadeau, que ce soit de la simple personne en passant par les familles jusqu'au groupe de solidarité, au village et jusqu'au plus haut du pouvoir, c'est quelque chose qui est ancré dans la société. Il est toujours d'usage d'offrir un cadeau pour se faire bien voir. Et malheureusement, toutes les campagnes anticorruption se heurtent à la tradition, à cette tradition-là.
Voilà, on a bien compris finalement que le Kyrgyzstan était une exception parmi d'autres pays voisins, mais évidemment avec une corruption qui est encore forte, et effectivement cette crise politique actuellement l'illustre, et cette dualité entre le Nord et le Sud que vous avez évoqué. Merci beaucoup David Gayuser, c'est déjà la fin de ce décryptage.
Merci.
Chercheur associé de l'Institut de Recherche Montesquieu rattaché à l'Université Bordeaux 4 et spécialiste du Kyrgyzstan. Merci à Léonore Krenik à la préparation de cette émission, Jade Elkoury à la réalisation. Merci à la documentation de RFI. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale.